Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Prêché le 16 décembre 1963 à la Ramada Inn, Tucson, Arizona, USA. J'estime que ceci est un grand privilège d'être ici ce soir à ce grand rassemblement de personnes chrétiennes et d'avoir l'occasion de vous parler de notre Seigneur Jésus béni, pour lequel nous sommes tous ici en l'honneur de lui pour l'honorer. C'est bon d'être avec frère Tony et frère Williams, les deux présidents du chapitre ici à Tucson et aussi à Phoenix. Nous avons eu les services là-bas samedi matin dernier et nous avons eu un merveilleux temps là à la Ramada Inn. Et nous nous attendons à avoir un autre merveilleux temps ici, en commençant le 19 de ce mois, où c'est mon privilège de retourner pour un service additionnel. Nous avons, je crois, 4 soirs, en commençant le 19, et je crois que la Convention internationale des hommes d'affaires commence le 22 ou le 23, et je suis ici jusqu'au 22, et ensuite j'aurai 1 soir ou 2, je crois, dans leur convention. Alors ceci est un grand privilège pour moi d'avoir l'occasion de se rassembler avec les chrétiens de différentes parties du pays et d'exprimer envers eux mes sentiments et mon amour envers Christ et d'avoir une grande fraternité et communion avec eux. Et maintenant je regrette de ne pas avoir pu arriver pour déguster ce bon repas car je sais que vous avez eu un bon repas. Mais je crois... J'étais à l'extérieur avec toutes ces entrevues, priant pour les malades, essayant d'aider quelqu'un le long du chemin. Et ceci est un monde très malade, celui dans lequel nous vivons. Il y a tellement de maladies et de troubles. Mais au centre de tout ceci, n'est-ce pas merveilleux que nous ayons quelqu'un à qui nous puissions regarder au-delà de toutes ces choses et que nous puissions passer au-dessus de cela? Et s'il n'y avait pas de vrai Noël, s'il n'y avait pas eu un vrai Noël, alors les choses ne seraient pas ce qu'elles sont ce soir. S'il n'y avait pas eu de Noël, il n'y aurait pas eu de salut. Et maintenant que nous faisons face à Noël à nouveau, c'est dommage que nous ayons changé la vraie signification de cela. C'est-à-dire, cela étant la naissance de Jésus. Et cela est arrivé au point où il semble que le Père Noël a pris la place de Christ à Noël. Et une certaine fiction de Kris Kringle qui descend une cheminée avec un sac de jouets sur son dos et qui visite le monde entier en un soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est tout à fait en ordre si vous voulez le dire à vos enfants à ce sujet. Mais je fus enseigné que l'Écriture nous enseigne « Tu ne mentiras point ». Alors un jour ils vous demanderont « Jésus est-il la même chose que le Père Noël ?» alors qu'ils découvriront qu'il n'y a pas de Père Noël. Ainsi, je pense que c'est mieux comme cela moi-même. Ce n'est peut-être pas votre idée. Je ne vous dis pas comment élever vos enfants, mais s'ils vous surprennent à mentir à propos de cela, alors ils diront peut-être un jour que cet autre est peut-être un mensonge aussi. Alors dites-leur la vérité, la simple vérité, et alors ils sauront ce que vous voulez dire. Alors peu importe combien mauvais cela a l'air au dehors et ce qu'ils font, cela ne devrait pas nous empêcher de faire de Noël ce qu'il devrait être. Voyez-vous, je crois que la lumière brille le plus fort dans les ténèbres. Plus il fait noir, mieux la lumière brillera. Parfois seulement une petite lumière. Où il y a beaucoup de lumière, ce n'est pas tellement remarqué. Mais plus il fait noir, cette petite lumière brillera d'autant plus fort. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de noirceur qui puisse exister dans la présence de la lumière. La lumière est beaucoup plus puissante que les ténèbres, au point où les ténèbres ne peuvent même pas se tenir dans sa présence. La noirceur ne peut plus rester lorsque le soleil commence à briller, car le soleil est tellement plus fort, la clarté, qu'elle presse les ténèbres au dehors et que celles-ci ne sont plus. Et ce monde de ténèbres, un jour, retournera à toute la lumière. Quand Jésus-Christ, le soleil de justice, reviendra de nouveau, alors nous n'aurons plus de ténèbres. Et jusqu'à ce temps-là, tout comme nous regardons le soir et voyons la lune briller, le soleil et la lune sont mari et femme, si on peut dire. Et dans l'absence du soleil, la lune reflète la lumière du soleil sur la terre, lui donnant une plus faible lumière, afin que l'on puisse s'orienter au clair de lune en attendant que le soleil se lève. Et ensuite, le soleil et la lune deviennent un, le même. La clarté du soleil et le clair de lune, c'est la même chose. C'est ce que l'Église de Jésus-Christ devrait être, reflétant la lumière de lui-même pendant qu'il est absent de la terre dans un corps physique. L'Église devrait être la réflexion de Jésus-Christ dans ses heures sombres. Alors que le Père Noël et toutes ces choses lamées et brillantes dans les rues sont là, nous devrions crier « C'est la naissance de Jésus-Christ » et non pas la visite de Saint-Nicolas. Nous vivons dans un temps très sombre et c'est alors que notre lumière devrait vraiment briller. Maintenant, avant de lire la parole de Dieu, je pense ceci, que si nous honorons sa parole, comment honorons-nous sa parole? Nous honorons sa parole en la lisant et ensuite en la croyant. Maintenant, nous devrions la lire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ensuite, si nous l'honorons en la lisant, alors nous l'honorons en croyant ce que nous lisons. Alors maintenant, pour accomplir le premier honneur, pendant que nous lisons sa parole, levons-nous pendant que nous lisons une portion des Écritures. Nous nous tenons en honneur, debout en honneur de la lecture de sa parole. Et je vais lire du sujet dont je veux parler ce soir seulement pendant quelques moments. Ce sera au livre de Saint Matthieu, l'histoire de Noël. Dans le deuxième chapitre de Saint Matthieu, nous lisons ceci. Matthieu 2, versets 1 à 7 inclus. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, « Où est le roi des Juifs qui était mis au monde ? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui, ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui fêtera mon peuple, Israël. » Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Maintenant, levons juste nos têtes un moment pendant que nous parlons à l'auteur de cette parole. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce soir du plus profond de nos cœurs pour l'amour de Christ qui s'est répandu dans nos cœurs en ces derniers jours par le Saint-Esprit. Nous te remercions parce que nous avons le privilège de nous assembler ensemble et de t'adorer et d'avoir cette assurance bénie qu'un jour tu reviendras pour prendre ton Église. Nous te remercions d'être des porteurs de lumière dans cet âge, d'être ici prêts à manifester la parole promise pour cet âge dans laquelle nous vivons. Sachant qu'au commencement, tu as accordé la parole, sachant la fin, dès le commencement, à chaque âge, tu as accordé la parole à cet âge. Par contre, nous ne savons pas comment cela est arrivé. Mais dans chacun de ces âges, en regardant à ta parole, nous voyons qu'il y avait une onction qui vint dans cet âge et qui a accompli cette parole. Et en ces jours que nous vivons, il y a une parole accordée, une promesse pour cet âge. Nous croyons que le Saint-Esprit est ici sur la terre maintenant, essayant de trouver des cœurs pour manifester et accomplir en confirmant la parole qui est maintenant prophétisée pour ce jour et cette heure. Et alors que nous regardons en arrière, il y a 1900 ans, il y avait une parole prophétisée depuis le jardin d'Éden, d'un sauveur qui devait venir. Et il en vint un, et il accomplit chaque parole qui fut prophétisée. Sa vie a confirmé la parole de Dieu parce qu'il était la parole. La plénitude de Dieu habitait en lui. Il était la réponse et la plénitude de tout ce que les prophètes avaient dit. Et maintenant, ce soir, nous approchons à nouveau la célébration de son anniversaire. Et Seigneur, alors même que notre nation s'est enveloppée dans une sorte d'histoire de fiction de quelqu'un qui est supposé être un mythe, mais Seigneur, nous savons que le vrai croyant sait que cela est faux. C'est l'ennemi qui fait cela pour tromper l'esprit des gens du Dieu vivant et vrai. Ô Dieu, nous prions que sa présence soit avec nous ce soir, alors que nous commençons cette histoire de Noël. Et accorde, Seigneur Jésus, que s'il y a un homme d'affaires ou une femme dans le bâtiment ce soir qui ne l'ait pas encore accepté comme sauveur, que ce soir soit le soir où leur propre cœur devienne une crèche qui bercera ce soir comme il en était alors ce Jésus qui était rejeté, méprisé, le Messie de Dieu. Qu'il puisse partir d'ici ce soir avec l'étoile du matin suspendue au-dessus d'eux, les éclairant jusqu'à ce qu'ils puissent traverser le Jourdain un jour par la lumière de celui-ci. Accorde-leur, Père, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Habituellement, je parle assez longtemps, mais je n'essayerai pas de prêcher ce soir parce que je suis enroué. Mais je voudrais donner un petit drame sur l'histoire de Noël. Il n'y a pas de doute que vous l'avez souvent entendu, et cette même écriture lue, vous l'entendrez sur les radios et à la télévision et dans vos églises. Vos bons pasteurs qui vous sont loyaux, les hommes d'affaires et ainsi de suite, vous entendrez l'histoire de Noël. Et vous raconterez l'histoire de Noël plutôt. Et maintenant, je voudrais approcher cela un peu différemment que je l'ai fait samedi dernier à la convention des hommes d'affaires à Phoenix sur le sujet « Pourquoi Jésus est-il né à Bethléem ?» Il n'aurait pas pu y avoir aucun autre endroit où il aurait pu naître, voyez-vous, car cela parlait de son nom et de ce qu'il était. Et nous découvrons au travers de l'Écriture que lui, Bethléem, il est la maison du pain de Dieu et il était le pain de vie de Dieu. Il n'y avait aucune autre manière. Et cela nous fait comprendre et savoir que nous, chrétiens, nés de nouveau, nous sommes nés en Bethléem. Christ est la Bethléem de Dieu, sa maison du pain de vie éternelle. Mais maintenant, ce soir, nous allons approcher cela d'une façon différente. Je vais prendre mon texte ce soir, Dieu voulant. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Ces rois mages. Ici, nous avons une idée et la tradition nous dit qu'il y avait trois rois mages. Par contre, nous ne savons pas si c'est vrai. La Bible ne dit pas qu'il y en avait trois. Par contre, j'ai eu le privilège de servir aux Indes, là d'où ils viennent et où ils ont voyagé par trois. Et nous les voyons encore. Il n'y a pas longtemps, j'étais aux Indes. Et ici, nous en voyons trois sortes accroupis dans la rue, en plein jour, avec leurs têtes enrubannées les unes ou appuyées les unes contre les autres, avec leurs turbans, assis tous les trois, comme dans une rêverie. Ils ne s'assoient pas complètement, ils font juste s'accroupir. C'est la raison, je pense, que nous croyons qu'il y avait trois rois mages, parce qu'ils voyagent toujours par trois. Et ils ont dit, nous avons vu son étoile dans l'Est, et nous sommes venus pour l'adorer. En d'autres mots, nous avons vu son signe pour cet âge dans lequel nous vivons. C'était prophétisé ainsi. Alors je crois que la parole de Dieu est éternelle, car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et habita parmi nous. Alors la parole ne peut être changée, elle est éternelle. C'est Dieu lui-même dans une forme écrite, c'est la Bible, la parole de Dieu. Il doit juger l'Église par un standard quelconque, et il ne peut pas la juger par le standard de n'importe lequel des systèmes que nous avons eus ou que nous avons faits, parce que chacun de nos systèmes sont faits par les hommes. Et vous devez être jugé. Alors si vous voulez être en désaccord et dire « Non, je crois que vous avez tort là, frère Branham, je crois plutôt notre pensée », ou l'autre gaillard dira « Oh non, c'est notre interprétation, alors qui est vrai ?» alors qu'il y en a environ 900 différents de systèmes. Alors Dieu ne pourrait pas juger l'Église par les 900 et plus différents systèmes qui existent. Mais il y en aura un. Il a dit qu'il jugera le monde par Christ, Jésus-Christ. Et Christ est la parole. Alors nous subirons le jugement par la parole de Dieu. Et ces rois mages ont dit, nous avons vu son étoile à l'est. Ils étaient dans l'est lorsqu'ils l'ont vu, ce qui est Babylone, ce qui était à l'est de Jérusalem. Et ils étaient dans l'ouest 2 ans plus tard, disant, et nous sommes venus pour l'adorer. La tradition chrétienne nous montre un petit bébé couché dans une crèche et les rois mages arrivant. Ce n'est pas ainsi. L'Écriture dit le contraire de cela. L'Écriture dit qu'ils sont venus à un jeune enfant, pas à un bébé qui vient de naître. Hérode a tué tous les enfants de 2 ans et moins, voyez-vous, et surveillé où ils devaient voyager par chameau pour s'y rendre. Cela leur a pris 2 ans pour faire leur voyage, en passant au travers par la rivière du Tigre et tout au travers. Nous avons vu son étoile quand ils étaient dans l'Est, et ils sont venus dans l'Ouest pour l'adorer. Maintenant, remarquez, Noël a changé. Maintenant, le vrai jour de Noël, cela pourrait être discuté, parce que nous ne le connaissons pas. De la manière que nous prenons Noël, si vous l'avez déjà étudié, nous prenons la conception de l'Église catholique romaine, de comment était Noël. Mais réellement, Christ n'aurait pas pu naître le 25e jour de décembre, et être en accord avec les Écritures, parce qu'il y a 30 pieds de neige en Judée en ce temps-là, voyez-vous ? Il n'aurait pas pu y avoir des bergers sur les collines et ainsi de suite. Cela serait contraire à toute la nature. Il est venu de la manière que la nature vient, parce que Dieu a une loi, et ces lois ne peuvent pas être changées. Le soleil se couche. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, il ne se lèvera pas. Il se lève. L'été, les hivers, ainsi de suite, ce sont les lois que Dieu a établies. Et chacune d'elles œuvre parfaitement. Maintenant, il est probablement né en avril ou en mai, alors qu'il était un agneau. Et toutes choses ont prouvé qu'il serait un agneau. Et ce n'est pas dans une maison, parce que les agneaux naissent dehors, dans les étables, dans la paille, et tout, et non pas dans la maison. Lorsqu'il fut conduit à la crucifixion, il y avait quelqu'un pour le guider. Vous vous rappelez que vous guidez, conduisez les moutons. Nous allons à l'abattoir là-bas, ils ont une chèvre ou autre chose qui dirige et conduit les moutons. Le mouton n'y va pas par lui-même, il doit être guidé. En toute manière, il l'était. Alors dans la nature, il devait naître lorsque les agneaux naissent. Et cela, c'est en avril. Voyez-vous, c'est environ à ce moment-là qu'il est né. Mais lorsque le christianisme fut conduit au romanisme et mélangé à Nicée, alors ils avaient le dieu soleil, Jupiter, le dieu soleil de Rome. Son anniversaire était environ le 25 décembre, parce que le cirque romain commençait le 21 et durait jusqu'au 25, ce qui était la célébration de la fête du dieu soleil. Et ainsi, mêlant le paganisme, le romanisme au christianisme, ils dirent, faisons la fête du Fils de Dieu. Alors nous pourrons tous être d'accord avec cela. Voyez, cela a toujours été bâti sur des systèmes afin de se compromettre avec la vérité chaque fois que cela a été. Alors aujourd'hui nous découvrons qu'en cela ils ont tout injecté. Tous nos congés de fête sont pollués. Notre Pâque, ce n'est plus la résurrection du Christ. C'est une sorte de lapin de Pâques ou un chapeau neuf ou quelque chose de semblable ou un petit canard rose. Cela n'a rien à voir avec la résurrection de Jésus-Christ. Pas plus que le Père Noël n'a affaire avec la naissance de Jésus-Christ. Mais c'est le monde, et le monde commercial a tout mélangé, et c'est un terrible gâchis. Pas surprenant que Dieu ait pu se justifier de brûler toute la chose. Et il le fera, il l'a promis. Et il doit être dans ce désordre afin de... Il n'y a pas d'espoir pour cela, c'est fini. Et maintenant, comme je disais, mais dans cette heure de ténèbres dans laquelle nous vivons, les chrétiens devraient tenir cette lumière, qu'il y a une vérité à Noël, que c'est la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le zigzag qui amène l'éclair dans les cieux noirs et ennuagés démontre qu'il peut y avoir de la lumière dans les ténèbres. Cela prouve qu'il peut y avoir de la lumière dans le temps des ténèbres. Et ceci dont je parle ce soir, cela peut sembler un peu inhabituel, et spécialement à partir de ces notes et de ces écritures que j'ai écrites ici, auxquelles je vais me référer. Et je sais que cela prend beaucoup des écritures, ainsi de suite. Maintenant, c'est un peu inhabituel, mais je veux que vous vous rappeliez toujours ceci dans votre idée. Dieu est inhabituel. Dieu fait des choses inhabituelles. C'est ce qui ne va pas avec nous aujourd'hui. Nous devenons si portés aux choses habituelles que lorsqu'il arrive quelque chose d'inhabituel, nous sommes tous en dehors de cela. Nous ne savons même pas ce qui est arrivé. Dieu fait l'inhabituel. Et n'importe quel homme qui a déjà lu la Bible sait que Dieu fait toujours des choses inhabituelles. Et rappelez-vous, ceci est tout préarrangé par Dieu lui-même, cette naissance de son Fils. Et quand cela devait prendre place, et quand cela arriva, tout était préarrangé par Dieu lui-même. Avez-vous remarqué? Cela devait être juste à ce moment-là où ce roi meurtrier Hérode, rien d'autre qu'un meurtrier qui a tué tous ses petits-enfants, afin que cela s'accomplisse, ce qui fut cité du Seigneur par le prophète disant, « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Voyez-vous, il devait y avoir un roi meurtrier pour accomplir cette prophétie qui avait été prononcée plusieurs centaines d'années auparavant. Mais lorsque Dieu prononce une parole par son prophète, cela doit s'accomplir. Si c'est la parole de Dieu, peu importe combien de temps cela prendra, cela s'accomplira quand même, parce que c'est une semence. Jésus a dit que la parole de Dieu est une semence qu'un semeur avait semée. Alors elle doit porter son fruit en sa saison. Et maintenant, ce roi meurtrier devait exister en ce temps-là pour tuer ses enfants. Et une autre chose que nous voulons remarquer, c'est que juste en ce temps-là, ils avaient rehaussé les taxes sur les gens. Et en faisant cela, ils forçaient Joseph et sa femme, son épouse, Marie, à retourner de force à Bethléem. Dieu sait comment faire les choses. Il fera même que les œuvres de l'ennemi le louent. Alors nous pensons parfois que c'est tout, il peut faire ceci et faire cela, afin que l'horloge sonne juste correctement. La pendule de Dieu marque le temps parfaitement. Et Jésus sera ici juste à temps. Il ne sera pas une seconde trop tard. Tout arrivera exactement de la manière que Dieu l'a prédit. Alors que nous le fassions ou que nous ne le fassions pas, ce sera ici de toute manière, car Dieu l'a dit et ce sera ainsi. Maintenant, nous constatons que les taxes que ce Hérode avait dit que tous les gens qui s'étaient éloignés de leur lieu de naissance devaient retourner. Il pensait qu'il faisait quelque chose de grand quand il fit cela. Il ne savait même pas qu'il œuvrait exactement en harmonie avec Jéhovah. Combien de prêtres ont probablement maudit Hérode en ce temps-là dans le nom du Seigneur? Combien se sont levés, probablement secrètement, pour dire « Oh, ce Romain, quel, si on pouvait s'en emparer, on ferait ceci et cela et ceci !» Ne sachant même pas que cela œuvrait exactement selon le plan de Dieu. Parfois, aujourd'hui, nous maudissons le communisme et toutes ces choses, et auxquelles je suppose le mérite. Mais vous connaîtriez la vérité. Cela œuvre exactement dans la main de Dieu, afin de faire exactement ce qu'il a dit que cela ferait. Il doit susciter quelque chose pour enlever Babylone hors de la terre, et il a l'instrument dans ses mains. Lisez seulement l'Écriture. Cela est écrit juste là, ce qu'il a dit qu'il ferait. Et si ces ministres de ce jour avaient seulement lu et étudié cette parole, ils sauraient que cela devait arriver. Maintenant, nous remarquons que sur cette grande taxation, le roi ordonna son règlement ou son ordre, que tous les gens retournent à leur lieu de naissance sans se préoccuper. Maintenant, cela a l'air d'une chose terrible, que cette pauvre petite femme, dans la position qu'elle était, pesante avec l'enfant, elle devait entreprendre ce long voyage. Aujourd'hui, nous penserions à peine pour la transporter en ambulance, mais elle le devait. Si vous êtes déjà allé en Palestine, et si vous aviez vu où elle devait passer, au travers de grosses pierres rugueuses de granit, au travers de tout cela sur le dos d'une petite mule, peu importe combien c'était pénible, Combien cela semblait cruel, c'étaient les ordres du roi. Tout le monde devait obéir, jeune ou vieux, préparé ou pas préparé, il devait le faire quand même. Et parfois, nous pensons que nos fardeaux, si je peux injecter ceci maintenant, nous pensons que nos fardeaux sont si pesants parfois, qu'il n'y a rien de pareil au monde. Mais savez-vous que toutes ces choses sont bonnes pour vous? Elles sont là pour vous modeler, pour vous former. Les prophètes et les sages furent modelés à l'arrière du désert, dans le soleil chaud et ardent, au travers des tribulations et des épreuves et des persécutions. Et ces choses que nous avons aujourd'hui, il n'y a rien qui nous arrive aujourd'hui qui n'est pas arrivé à d'autres chrétiens auparavant. D'autres chrétiens ont dû se tenir dans l'heure des ténèbres comme ceci, et même être donnés comme nourriture pour les lions à cause de leur témoignage. Et ensuite, nous prenons un peu de prestige ou quelqu'un que nous croyons être, eh bien, j'appartiens à ceci et cela, cette église, si vous savez, oh, j'ai peur d'apporter de l'opprobre si je... N'ayez pas peur de votre témoignage pour Jésus-Christ. Répandez votre lumière. Tenez ferme pour vos convictions qu'il est le Fils de Dieu et que ceci n'est pas un soir de visite de Kringle, Chris Kringle, mais c'est la naissance de Jésus-Christ que nous célébrons. Et nous voyons que ces choses sont faites. Les avez-vous déjà vues alors qu'ils se préparaient à mouler une cloche, une fameuse cloche pour un carillon d'église ou quelque chose qui doit donner un certain ding? Vous voyez, si vous sonnez le carillon, cela prend une certaine gamme pour chaque cloche et cela prend certains matériaux qui vont y entrer, tant de bronze, tant de fer, tant d'autres minerais, pour aller dans cette cloche. Et si c'est seulement de l'airain, elle ne sonnera pas comme il le faut. Il doit y avoir toutes sortes de matériaux mêlés là-dedans, afin qu'elle sonne le bon ton. Et l'homme qui a monté la moulure, qui a placé le moule, il sait exactement ce que cela prend pour mettre dans cette coupole, ce que cela prend pour mettre dans ce métal, afin que la cloche sonne ce ton. Dieu est notre grande coupole. Dieu est il est la grande fournaise de la raffinerie. Et où il doit placer ces choses sur nous et les épreuves, les persécutions, les choses, afin de tout mouler cela ensemble, pour que notre témoignage sonne pour un certain temps et une certaine note qu'il veut sonner en un certain jour. Nous sommes faits différemment. Nous sommes tous faits différemment. Nous voyons différemment. Mais nous voyons tous une chose, c'est Jésus-Christ. Regardons-le. Et la seule manière que vous puissiez le voir, s'il a l'air contraire à cette parole, ce n'est pas lui que vous regardez. Car cette parole, c'est lui. Si vous voyez un credo ou une certaine dénomination et que vous pensez, j'appartiens à cela et c'est assez, si cela ne regarde pas à cette parole, alors détournez vos yeux de cela. Regardez à cette parole. Et c'est ce que nous cherchons, Christ, la manifestation de la parole de Dieu. Il est la confirmation de la parole de Dieu. Maintenant, toutes ces grandes choses qui sont arrivées là-bas, à ce petit couple, cela semble étrange. Mais cela peut leur sembler étrange, mais cela œuvrait pour le bien. Maintenant, je voudrais parler un moment sur le rêve de Joseph. J'ai écrit les Écritures ici pour cela. Dieu a en tout temps et en tout âge parlé à son peuple, et il s'est révélé lui-même par des rêves. Maintenant, les rêves ou les songes ne sont pas une assurance. Chaque rêve n'est pas de Dieu. Maintenant, bien des gens ont des rêves, et ils ont toutes sortes de rêves. Et si vous allez au lit le soir, et que vous mangez un bon gros souper, et vous allez vous coucher, et vous pouvez rêver n'importe quoi, vous pouvez avoir de la fièvre, et vous pouvez avoir toutes sortes de cauchemars, et ainsi de suite, ce n'est pas Dieu. Mais malgré cela, Dieu traite avec les gens par des rêves. Et nous trouvons Joseph, de bonne heure, le fils de Jacob, et comment il était un prophète, et un prophète comprenait les rêves. Maintenant, si un rêve est interprété, alors il devient une vision, c'est une prophétie. Et nous découvrons, même avant cela, le roi Nebuchadnezzar est de retour en Daniel, et loin en arrière, que Dieu traitait avec les gens par des rêves spirituels. Je crois en cela. Nous les avons maintenant. Combien de fois je pourrais témoigner des centaines de gens qui ont fait des songes et que cela fut interprété correctement. Cela arriva exactement. Mais un rêve est une chose un peu imaginaire. Maintenant, une fois, pendant un examen, on me demanda à propos des rêves. Et un rêve, nous dit-on, c'est lorsque nous sommes dans notre subconscient. Maintenant, une personne a une première conscience. Et dans cette première conscience, vos cinq sens sont actifs. La vue, le goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Mais lorsque vous vous endormez, ces cinq sens ne sont pas actifs. Et alors, vous n'êtes pas ici, dans votre subconscient, qui est placé loin, loin de vous. Et vous, vous êtes ici, en train de rêver. Mais lorsque vous revenez et que vous vous réveillez, sans l'ombre d'un doute, il n'y a pas une personne, même pas une personne ici, qui n'ait jamais eu un rêve dans sa vie, que vous vous souveniez encore. Alors, il y avait une partie de vous quelque part. Et lorsque vous revenez à vos sens, vous vous en souvenez encore. Peut-être que ça fait des années. Je me souviens des rêves que j'ai faits quand j'étais un petit garçon. Je m'en souviens encore. Alors, il y a sûrement quelque chose, une partie de moi qui était quelque part. Alors, c'est cela, les rêves. Alors, vous voyez, vous êtes loin de vos sens. Alors, quand cela revient et que vous dites votre rêve, si c'est de Dieu, il doit y avoir un interprète pour les rêves. La Bible dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi, le Seigneur, je me révélerai à lui par des songes et je lui parlerai par des visions. Maintenant, nous découvrons que Joseph, le fils de Jacob, était ce type d'homme et que les gens rêvaient et lui, il interprétait. Il pouvait interpréter les rêves et il voyait des visions. C'est tout à fait un acte de l'esprit. Alors, nous découvrons aussi que lorsqu'un homme est né pour être voyant ou pour voir des visions, vous devez être appelé à cela par Dieu. Remarquez, voici votre subconscient naturel, et ici est votre première conscience. Maintenant, vous devez sortir de vos sens, de vos cinq sens dans le sommeil, pour entrer dans le subconscient, et ensuite y revenir. Cela, c'est un rêve. Mais en voyant, les deux consciences sont toutes deux ensemble. Vous ne sortez pas de ces cinq sens. Vous demeurez encore dans vos cinq sens. Vous vous tenez droit, et vous regardez ce qui prend place. Vous voyez, vous ne quittez jamais vos sens. Vous êtes là où vous êtes. Et ce que vous faites, parlant par vos paroles. Maintenant, cela c'est un don prédestiné. Les dons et les appels sont sans repentance. Vous voyez, Dieu fait cela. Vous ne vous endormez pas. Vous vous tenez debout avec vos deux yeux ouverts, regardant juste tout droit devant vous et voyant ce que vous regardez. Voyez-vous? Et cela est une vision. C'est de Dieu, bien sûr. Nous dormons aujourd'hui. C'est le problème avec le monde aujourd'hui. Il dort. Tant de gens aiment tout simplement dormir. Mais je vais vous dire ceci, il n'y a pas de lit au ciel. Nous ne dormirons pas lorsque nous arriverons au ciel, parce qu'il n'y a pas de nuit là-bas. Il n'y a pas de nuit, et alors vous n'aurez pas besoin de dormir lorsque vous irez au ciel, car il n'y a pas de lit là-bas. Mais remarquez, lorsque notre conscience, Dieu peut se servir de chaque partie de nous, si cela est converti à lui. Tout ce que nous sommes, lorsque cela est complètement consacré dans les mains de Dieu et converti à son service, il peut se servir de nous dans des rêves. Il peut se servir de nous par les langues. Il peut se servir de nous dans tous nos sens. Et tout ce que nous sommes est converti à Dieu. Alors Dieu peut s'en servir. Croyez-vous cela? Alors, lorsque nous le sommes, tout est consacré à lui, il peut s'en servir. Lorsque tout notre être est converti, alors les chrétiens peuvent avoir en ce jour des rêves spirituels qui peuvent vouloir dire quelque chose, qui peuvent leur prédire des choses, et nous savons que c'est la vérité. Un rêve spirituel qui est interprété, bien interprété, est la même chose qu'une vision. Et qu'est-ce qu'une vision? Une vision est une prévision des événements futurs. Cela prédit la chose avant qu'elle n'arrive. Et c'est comme cela que Dieu a toujours confirmé si c'était vrai ou non, si l'homme, qui était dans l'Ancien Testament, devait être un prophète, si ce qu'il disait s'accomplissait. Alors il le savait, si cet homme disait ceci et cela arrivait constamment. Maintenant, cet homme ne peut pas simplement se faire imposer les mains ou ébranler, donner un don. Il est né avec ce don. Il est né en lui lorsqu'il est né, avant même qu'il soit né. Regardez le prophète Ésaïe, qui a prophétisé de Jean 712 années avant qu'il ne soit né. Il a dit qu'il était la voix criant dans le désert. Regardez Jérémie, avant même d'être conçu dans le sein de sa mère, avant même d'être là, Dieu a dit, je t'ai connu et je t'ai sanctifié et je t'ai ordonné prophète pour les nations. Voyez-vous, les dons et les appels sont sans repentance. Et vous pouvez être cela peut marcher seulement lorsqu'il y a quelque chose là avec lequel il peut œuvrer. Comme par exemple, s'il y a une main droite pour travailler, et vous avez une main droite, alors laissez-la travailler pour le royaume de Dieu. Si vous avez des yeux pour voir, alors voyez les bonnes choses. Des lèvres, une voix pour parler, parlez de bonnes choses. Quoi que ce soit, faites la bonne chose. Et convertissez tout ce que vous avez à Dieu pour sa gloire. Maintenant, nous découvrons que la prévision prédit des événements futurs avant qu'ils n'arrivent. Aussi étrange que cela puisse sembler, le Dieu Tout-Puissant a prédit et il a pris le bien-être du bébé Jésus et il l'a révélé par un rêve. Alors quoi faire? Maintenant, Dieu, dans cette manière secondaire, à son propre fils, l'a révélé à Joseph par un rêve. La Bible dit qu'il l'a fait, oui monsieur. Maintenant, Joseph était un homme bien, il était le fils de David et il était fiancé à Marie. Maintenant, je voudrais souligner ceci avant de continuer. Se fiancer dans l'Est était la même chose que le mariage. Ce sont les fiançailles. Et alors qu'ils étaient fiancés, ils étaient mariés. Lorsque ce vœu sacré entre les deux était pris, lisez Deutéronome 22-23. Et vous découvrirez que lorsque cette femme et cet homme sont d'accord pour se marier, bien qu'ils ont fait leur vœu des mois plus tard, s'ils brisaient ce vœu, ils étaient coupables d'adultère. C'est vrai. Lorsqu'ils étaient fiancés, ils étaient tout à fait pareils comme s'ils étaient mariés. La loi ne leur donnait pas le droit de vivre ensemble encore, comme mari et femme. Mais devant Dieu, lorsqu'ils se sont promis l'un à l'autre, leur parole était scellée dans le royaume de Dieu. Et briser cela, c'était commettre l'adultère. Et maintenant, Joseph était fiancé à Marie. Si les frères ministres, si vous étudiez cela très bien, cela vous éclairera sur ce cas de mariage et divorce qui est si difficile et si différent parmi les gens d'aujourd'hui. Remarquez Joseph, son mari, étant un homme juste, vous voyez, maintenant nous remarquons que cela ne pouvait pas être brisé. Elle a dû lui dire, cette jeune vierge belle, une jeune servante juive, elle devint, nous sommes tous adultes ici, pour autant que je puisse le voir, elle commence à devenir une mère. Et Joseph, qui sortait avec elle, remarqua ceci sans doute, après qu'il fut fiancé avec elle, il a découvert qu'elle allait devenir une mère. Maintenant, il était un homme juste. La Bible dit qu'il l'était. Elle a dû lui parler de son innocence. La jolie femme, je puis l'entendre comme si elle disait, « Joseph, mon ami bien-aimé, mon mari bien-aimé, je suis innocente de ceci. » Elle a dû lui parler de la visite que lui avait faite le grand archange Gabriel et que l'archange était venu vers elle, Gabriel, et l'avait visité avec ses grands signes dont il lui avait parlé et ce qui devait arriver. Et on remarque qu'elle aussi, après qu'elle eut cette visitation, elle était tellement ravie par le message de l'ange qu'elle partit dans le pays des collines de la Judée, de Nazareth, où elle était native, de la ville de Nazareth, une petite ville très méchante. Et lorsqu'elle arriva là-bas, sa cousine Élisabeth était également enceinte de 6 mois, elle qui avait été appelée stérile. Son mari Zacharie était un prêtre dans le temple, et un jour, pendant qu'il offrait le parfum, ce qui était l'encens brûlant, pour les prières des gens qui étaient dites à l'extérieur, Gabriel, l'ange du Seigneur, maintenant il n'avait pas été vu, ni rien n'avait été vu de surnaturel pendant des années et des années et des centaines d'années. Mais voici que se tenait cet ange au côté droit de l'autel, et il lui a dit que sa femme concevrait et porterait un enfant et qu'il devait appeler son nom Jean. Et nous connaissons tous l'histoire. Et ensuite, lorsque Gabriel aussi, 6 mois plus tard, a visité Marie à Nazareth et lui a parlé de l'événement de sa cousine Élisabeth, ensuite, rapidement, Marie, ayant ce grand secret dans son cœur de ce qui devait prendre place, elle se précipita dans les collines pour voir sa cousine. Et lorsqu'Élisabeth s'était cachée parce qu'elle ne voulait pas se montrer devant les hommes dans la condition qu'elle était, elle s'était cachée pendant 6 mois. Maintenant, selon ma compréhension des Écritures, elle était inquiète. Le bébé n'avait pas encore de vie jusqu'à ce moment-là. Et ce n'était pas normal qu'un bébé n'ait pas bougé dans la période des 3 ou 4 mois de temps. Mais maintenant, c'était 6 mois. Le bébé n'avait pas bougé encore. Jamais. Alors lorsqu'Élisabeth et Marie se sont rencontrées comme cousines, elles étaient si contentes de se voir. Et pensez à ce qu'elles ont dit. Je peux entendre Élisabeth dire à Marie, « Oh ma chérie, tu as l'air si belle Et Marie a dit, tu sais, je sais que tu vas devenir mère. Oui, cela m'a troublé. Cela fait 6 mois, mon bébé n'a pas encore bougé. Oh, mais j'ai quelque chose à te dire. Je ne puis pas le retenir plus longtemps. Oh, vous savez, il se passe quelque chose lorsque vous venez en contact avec Dieu. Vous ne pouvez pas rester tranquille à propos de cela. Vous devez absolument en dire quelque chose. C'est-à-dire, si vous avez une vraie et réelle conversion, peu importe où vous êtes, vous devez l'exprimer quelque part. Et je puis l'entendre dire, « Oh, tu sais, j'ai quelque chose à te dire, je vais avoir un bébé aussi. » « Oh, dit Élisabeth, je suppose alors, pourquoi ne nous as-tu pas invités au mariage, toi et Joseph, lorsque vous vous êtes finalement mariés ?»« Je savais que vous étiez fiancés, mais pourquoi ne m'as-tu pas invité au mariage ?»« Oh, nous ne sommes pas encore mariés. » « Et tu vas avoir un enfant ?»« Oui. » »« Eh bien, Marie, je ne comprends pas. » « Mais tu sais, l'ange du Seigneur m'est apparu, Gabriel. C'est lui qui m'a dit que tu devais être enceinte. C'est lui qui me l'a dit. Et il a dit que le Saint-Esprit me couvrirait de son ombre. Et cette chose sainte qui devrait naître de moi serait le Fils de Dieu. Et j'appellerai son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. » Et la première fois que ce merveilleux nom fut prononcé par des lèvres humaines, le petit Jean, étant mort dans le sein de sa mère, a sauté de joie et il a reçu le Saint-Esprit mort dans le sein de sa mère. Si la puissance de prononcer le nom de Jésus-Christ a pu conduire un bébé mort à la vie, qu'est-ce que cela devrait faire à une église qui prétend être sa servante née de son esprit? Et Élisabeth fut tellement surprise, elle regarda Marie, elle dit, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» La mère de mon Seigneur, car aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Jésus, Jean fut, est né dans le sein de sa mère, rempli du Saint-Esprit par le nom de Jésus-Christ. Quel genre de bébé cela devait être? Sans doute qu'elle avait répété cela à Joseph. Mais vous voyez, Joseph étant un homme juste, il était émerveillé. Tu sais maintenant, je sais qu'elle est prise en adultère. La première chose qui devrait lui arriver, c'est qu'elle soit lapidée. Mais cela ne se peut pas. Il ne pouvait pas vivre de cette manière. La Bible dit cela, Deutéronome 22, versets 23, 24, 25. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, et qu'un homme la trouve dans la ville et couche avec elle, vous les ferez sortir tous les deux à la porte de cette ville, et vous les assommerez de pierres, et ils mourront. La jeune fille, parce qu'étant dans la ville, elle n'a pas crié. Et l'homme, parce qu'il a humilié la femme de son prochain. Et tu ôteras le mal du milieu de toi. Et si c'est dans les champs que l'homme a trouvé la jeune fille fiancée, et que lui faisant violence, il couche avec elle, alors l'homme qui aura couché avec elle mourra lui seul. Alors maintenant, la pénalité de cela, c'est Deutéronome 22, où je vous ai demandé de lire il y a un moment. Et remarquez maintenant ceci, nous découvrons qu'elle devait être mère, et qu'elle n'était pas mariée. Alors pour Joseph, cela semblait comme si Marie se servait de lui comme bouclier pour se défendre des moqueurs et des railleurs, voyez-vous? Joseph devait être son bouclier, mais ne pas être son mari dans la relation familiale. Mais il devait être un bouclier pour elle. Il voulait la croire, je le crois vraiment. Il voulait la croire, mais son histoire était si invraisemblable. C'était si difficile pour ce croyant de croire. Oh, pardon, monsieur. Et ainsi en est-il aujourd'hui. L'histoire de la puissance du Saint-Esprit sur la terre aujourd'hui, dans l'Église, est si inhabituelle pour l'organisation et pour la pensée dénominationnelle. Jusqu'à ce qu'ils veulent le croire, mais c'est trop inhabituel. C'est trop fantastique. Mais c'est la vérité. La Bible dit que ce devrait être de cette manière. Et la voici. Plusieurs hommes sont pris dans leur credo. Ils veulent réellement croire cela, mais c'est trop inhabituel. Ils ne peuvent pas à peine le faire. Il ne sait pas quoi faire. Il est tout juste dans une mauvaise posture, tout comme Joseph l'était. Et la Bible dit que pendant qu'il pensait à ces choses, voyez, il était un homme juste et il ne voulait pas ruiner son propre nom. Et par contre, il savait que si cette femme était de cette manière, qu'il ne pouvait pas la marier, elle devait être mère par un autre homme. Et alors il dit, cette petite femme innocente, sa vie, mais je ne sais pas quoi faire. Et pendant qu'il pensait à ces choses, il se proposa de rompre secrètement avec elle. Il dit, je ne causerai pas de trouble à propos de cela. Et rappelez-vous qu'il n'avait pas encore fait serment, mais il était fiancé. Mais il allait rompre avec elle secrètement. Et pendant qu'il pensait à ces choses de rompre avec elle secrètement, voyez, cela était au meilleur de sa connaissance. Voyez, il était un homme juste et un homme bon. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Si vous êtes juste et si vous êtes honnête dans votre cœur, alors Dieu est obligé de vous révéler la chose. Joseph, son mari, étant un homme juste, il réfléchit sur les choses. C'était si inhabituel, comme je disais. Il ne pouvait à peine le comprendre. Comment ces choses peuvent-elles être? Mais sans doute qu'il s'est assis et il pria sur cela. Il l'étudia dans les Écritures. Comment ces choses peuvent-elles être? Et pendant qu'il étudiait, l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve. Il n'était pas un prophète. Il n'y avait pas de prophète sur la terre dans ce temps-là. Personne ne pouvait venir à lui avec « Ainsi dit le Seigneur ». Alors le Seigneur prit la manière secondaire. C'est la raison pour laquelle Dieu a pris le bien-être de son propre fils à un homme par un rêve. Et il le plaça en Égypte, il le fit ressortir, il le cacha des rois mages, ou plutôt les rois mages prirent une autre route. Il n'y avait pas de prophète dans le pays. Alors il prit d'une manière secondaire le rêve. Mais il y avait des hommes qui n'étaient pas nés pour être des voyants, mais ils étaient de bons hommes. Et lorsqu'ils le furent, Dieu les a visités dans leur subconscient et il se révéla lui-même. Si vous pouviez seulement vous abandonner à Dieu, Dieu a plusieurs manières par lesquelles il peut se révéler à vous. Voyez-vous, vous n'êtes peut-être pas un prophète, vous n'êtes peut-être pas un docteur ou un enseignant, vous n'êtes peut-être pas un enseignant de l'école du dimanche, vous n'êtes peut-être pas un prédicateur, mais Dieu a des manières par lesquelles il peut se révéler à vous, voyez. Que ce soit des rêves, cela peut être d'une autre manière, et vous pouvez seulement vous soumettre comme Joseph l'a fait. Sans doute a-t-il dit, « Ô grand Jéhovah Dieu, je viens de la lignée de David. Je suis un homme juste, j'espère que je le suis. Je crois que ce que vous dites est la vérité. Et ma petite chérie bien-aimée ici, à laquelle je suis fiancé, je suis coupable d'adultère si je ne romps pas avec elle. Elle doit être mère, et je ne la connais même pas comme ma femme. » Que sont ces choses, Seigneur? Voyez, il n'était pas un prophète, alors il ne pouvait pas lui parler de cette manière. Alors, il le laissa tomber, endormi, et envoya l'ange du Seigneur à lui, dans un rêve. Amen. L'ange du Seigneur vint à lui dans un rêve. Il le toucha, et il dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Nous y voilà. Ce qui est conçu en elle n'est pas d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui a fait ceci. La femme a dit la vérité. Cette histoire inhabituelle, cette chose inhabituelle qui est arrivée, Joseph, qui t'a bouleversé, cela vient du Saint-Esprit. Oh, ce même Dieu vit aujourd'hui. Vous avez encore le subconscient. Et vous avez, vous chrétiens, si la chose vous semble inhabituelle, que vous voyez cela, si c'est quand même exactement avec la parole, alors Dieu peut révéler les choses inhabituelles de plusieurs manières. Alors il dit à Joseph, « Fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme. » Rappelez-vous, déjà sa femme, prends avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Maintenant, alors Dieu envoya son ange, il le révéla. Sa révélation du songe vint à Joseph. Il savait, il n'y avait pas de mystère en cela. L'ange est venu à lui dans un rêve. Il vit l'ange dans son rêve. Maintenant, un prophète ou un voyant ne tombe pas endormi. Il voit l'ange se tenant là. L'autre tombe tout simplement endormi et il voit l'ange. Et l'ange lui dit, maintenant Joseph, ce n'est pas une devinette. Personne ne peut l'interpréter pour toi. Alors je vais t'en parler. Je vais te le rendre réel, car il n'y a personne qui puisse te le rendre réel. Maintenant, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu en elle vient du Saint-Esprit. Alors, lorsque Joseph se réveilla de son sommeil, oh, comme son cœur a dû être rempli de foi, d'une foi nouvellement née, ce mystère qui le troublait, ce quelque chose qu'il voulait croire, mais ce quelque chose qu'il n'osait pas croire, c'était si inhabituel, mais malgré cela, cela lui fut révélé au travers d'un rêve. Une nouvelle foi a jailli dans son cœur. Oh, il avait foi en Dieu, il avait foi en sa femme alors. Toute la foi, la foi en Dieu et l'amour pour sa femme et l'amour pour celle qu'il aimait. Il n'y avait plus de questions, plus de questions à propos de cela. Il savait que c'était l'ange du Seigneur. Il savait que Dieu lui avait révélé exactement la question qui était dans sa pensée. Alors il n'avait plus de questions. Oh, lorsque Dieu, de quelque manière qu'il désire le faire, vous révèle le problème, la question qui est dans votre pensée, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de question à propos de cela. C'est une révélation. Et lorsque vous voyez quelque chose ici dans les Écritures, vous dites, eh bien maintenant je crois que c'était pour le temps des apôtres. Je crois que Jésus a fait cela en ce temps-là. Mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Jésus. Alors s'il vous semble être une question pour vous et que vous y réfléchissiez, que vous ne puissiez pas le comprendre, que vous voyez la chose arriver et que vous songez à ce sujet, alors l'ange du Seigneur, de quelque manière, vous le révélera si vous êtes sincère. Ensuite, ce n'est plus une question, c'est la vérité alors. Oh, et alors vous pouvez crier et crier. Oh, je suis tellement reconnaissant. Je peux m'imaginer comment Joseph a dû se sentir lorsque cela a eu lieu. C'était tout, le mystère était tout à fait terminé alors. Alors, et quand ceci fut fait, il fut trouvé se réjouissant parce qu'il était content. Maintenant, nous constatons qu'il la maria aussitôt. Oh, il n'y avait plus de question alors. Il prit pour lui Marie, sa femme. Il ne la connaissait pas comme sa femme jusqu'à ce que l'enfant arrive. Et il était content de cela. Il était heureux d'être le bouclier de Marie. Il était heureux de supporter son opprobre. Et lorsqu'un homme a la révélation que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, peu importe le nombre de dénominations qui lui tournent le dos, vous êtes heureux d'être un bouclier. Vous êtes heureux d'être un bouclier. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Vous avez un grand bouclier là-bas pour frapper ou pour arrêter les dards brûlants. J'espère que je ne deviens pas trop bruyant pour ceux de l'extérieur. Qu'ils l'entendent aussi, car ils le devraient. Oui, monsieur, vous êtes heureux d'être un bouclier. Vous êtes un paillasson, quoi que vous êtes, ça ne fait rien. Cela vous a été révélé par le Seigneur. Le Seigneur vous l'a montré par sa parole. C'est la vérité. Et ensuite, il vous l'a confirmé afin de le faire vivre à nouveau. Vous dites, nous y voilà. Et rien ne va. Personne n'a même le droit de prêcher l'évangile avant qu'il n'ait vu Dieu face à face. C'est vrai. Aucun homme ne devrait être au pupitre sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Jésus a commissionné ses disciples de ne plus prêcher, mais d'attendre la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit rempli et investi de la puissance d'en haut. Et surveillez ce qu'a fait le Saint-Esprit lorsqu'il arriva. Et le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est le Père de Jésus-Christ. Matthieu, le 2e chapitre et le 20e verset, nous dit que Marie, sa mère, lorsqu'elle était fiancée à Joseph, elle fut trouvée enceinte avec l'enfant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père de Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit vient et révèle la parole et la fait vivre exactement, alors c'est une révélation pour vous. Vous le voyez, c'est dévoilé, c'est promis pour l'heure. Joseph avait vu cela, que c'était la prophétie d'Ésaïe accomplie. Ésaïe chapitre 9, un enfant nous est né. Il sera appelé le conseiller, le prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, et son royaume n'aura pas de fin. Il savait qui cela devait être, parce qu'il a vu toute la chose lorsque l'ange du Seigneur lui a dit qu'elle a conçu, ce qu'elle a conçu est du Saint-Esprit. Une vierge concevra et portera un fils. Maintenant, cela était un grand mystère, le super signe que Dieu a donné à tout le monde, un super signe qui était son Fils. Maintenant, remarquez au fur et à mesure que nous avançons, je ne serai pas trop long, essayez de ne pas remarquer, lorsque nous découvrons quand Jésus, maintenant je pense, les petits-enfants ne comprendront pas, mais je dois dire quelque chose ici afin que les adultes, lorsque le Christ Jésus fut formé en Marie, c'est alors que la persécution commença. C'est vrai, c'est alors que la persécution commença. Et c'est la même chose pour vous. Galates 4, 19 dit que lorsque Christ l'espérance de la gloire est formée, il est formé en vous, Christ étant formé en vous, lorsque vous mourrez, que Christ devient la vie en vous. Surveillez bien, la persécution commencera. Surveillez le trouble qui commencera de tous côtés. Surveillez le démon qui se démènera comme un fou, certainement, lorsque Christ est formé en vous. Et lorsque Christ était formé en Marie, aussitôt arriva le commandement du roi que tout le peuple, juste au moment où elle, le Christ devenait un bébé complet, prêt à être mis au monde, alors commença la grande persécution. Alors le bébé étant formé depuis longtemps dans son sein, mais voici qu'arrivent les derniers jours. C'est l'accomplissement, alors que la plénitude de la divinité, lorsque la plénitude de Christ est manifestée parmi son peuple. Il l'a dit, il l'a promis dans sa parole. Et lorsque cette plénitude, voyez, il y a des choses inhabituelles qui commencent à arriver. C'est ce qu'il a promis. C'est la raison pour laquelle nos grandes vies sociales, ces choses, ils ne peuvent pas comprendre cela. C'est de la folie pour eux. Mais maintenant, surveillez, ils forment un conseil des églises, voyez-vous? Juste au moment où l'église commence à se mettre sur ses pieds, au moment où le surnaturel commence à travailler, alors ils sont tous entrés dans un groupe. Et maintenant, ils vont essayer d'arrêter ces choses, tout comme cela était auparavant. Comme je le disais samedi dernier à Phoenix, les Philistins se sont mis en troupe à Bethléem, afin que les gens ne puissent pas venir, à moins de venir à travers le Conseil mondial des églises. Oh, ils les conduiront à une citerne polluée, non pas aux eaux fraîches de Bethléem, sûrement pas. Et maintenant, nous remarquons, lorsque le roi donna son commandement, juste au moment où Christ était formé, maintenant, prenons cela juste un moment et surveillons, emportez-les un peu avant que nous terminions. Je puis voir Joseph dire, « Marie, ma chérie, ce roi cruel !» Mais elle a dû dire, « Écoute, chérie, rappelle-toi que le Saint-Esprit m'a dit que son nom sera appelé Jésus, et il sauvera son peuple de leurs péchés, son peuple de leurs péchés. Maintenant, Joseph, chérie, quoi qu'il arrive, et quoi que le roi dise, je suis capable, je peux m'asseoir sur la mule, c'est à plusieurs milles dans ces montagnes rocheuses, et ainsi de suite. Et si nous avons besoin d'un peu d'aide, il y en aura plusieurs dans le voyage, car nous ne sommes pas la seule famille. Il y en a d'autres qui ont souffert la même chose que nous. Alors, il y en a d'autres le long du chemin, et nous irons avec le reste de la foule, pendant qu'ils montent la montagne, ils montent à Bethléem, car de Nazareth, ils arrivent au travers d'une montagne, et nous découvrons qu'il a dû prendre un petit âne et le nourrir avec un peu plus de foin et d'avoine ce jour-là, car la petite dame était un peu pesante. Alors, il l'assied sur la petite mule, et il prit un sac d'eau, quelques biscuits, il prend le petit âne, il prend son bâton dans la main, et les voilà qui montent la route. Et le petit mulet qui chancelle et qui tombe. Oh, regardez ce que le pauvre petit transporte. Regardez son fardeau. Qu'est-ce? Il transporte le Christ à son lieu de naissance. Et ici, cette petite femme assise là en douleur pour mettre au monde, tenant la crinière du petit mulet, et lui parlant tout au long du chemin. Je puis les voir tout le jour. Il devait s'arrêter, il la faisait se reposer et lui demandait, « Chérie, est-ce que tu es très fatiguée ?»« Non, chérie, je suis très bien, je suis bien. Eh bien, voudrais-tu monter un moment ?»« Non, chérie, reste assise là. » Et il la débarquait du petit âne, il la laissait se reposer un peu, et ensuite il lui donnait un verre d'eau et un petit sandwich, et il la réassoit sur l'âne. Et finalement, il commence à faire noir. Les voyageurs le long du chemin, ils pouvaient voyager beaucoup plus rapidement, et ils les dépassaient. Et elle devait respirer la poussière du reste d'entre eux sur les chevaux, les chariots, ainsi de suite, afin qu'ils puissent traverser. Parce qu'elle devait voyager très lentement par rapport à sa condition. Quelle chose cruelle d'envoyer cette mère là-haut dans une telle condition. Mais je puis imaginer maintenant dans ce petit drame, tout à fait lorsqu'ils arrivent là, au haut de la colline. Bethléem est construite dans une comme une vallée, et sur le côté ouest de la montagne de Bethléem, là où le petit sentier monte. Je peux les voir maintenant dans un drame, je dis bien. Il commence à faire noir. Et Joseph tâtonne avec son bâton le long du chemin. tout en prenant tous les raccourcis possibles. Là où le chemin tournait de cette manière, où le chariot devait aller, eh bien, il essayait de passer au-delà de cela pour gagner du temps, et sortit de la poussière avec sa petite femme. Les étoiles commencèrent à sortir, et après quelque temps, il arrive au sommet de la montagne, et à nouveau, il regarde dans la ville, là dans laquelle ils sont nés, dans cette ville de Bethléem, les lumières de la ville. Plusieurs étaient là, l'endroit était rempli des gens de l'extérieur dormant sur le sol, le long des champs. Et la question peut-être frappa la pensée de Joseph pour la première fois. Que vais-je faire si je ne peux pas trouver un endroit, car ce bébé va peut-être naître ce soir? Elle a été dans les douleurs toute la journée. Alors maintenant, qu'en est-il si le bébé devait naître ce soir? Et alors qu'il se tenait là, regardant bas dans la vallée, songeant, ses yeux ont erré sur le côté et il vit une étrange vision. Vous savez, c'est habituellement juste au temps du trouble que les choses surnaturelles arrivent. Il regarda là-bas et il vit une étoile. Il ne se souvenait pas d'en avoir déjà vu une aussi grosse. Elle semblait si basse. Elle était suspendue juste au-dessus de Bethléem. Il regarda en haut et il tourna après qu'il eut aidé Marie à monter sur un rocher afin de se reposer un petit moment. Il se retourna pour lui dire « Chérie, as-tu déjà remarqué ?» Et il pouvait même voir sa réflexion dans ses beaux yeux noirs, comme elle était assise. Elle regardait, souriante. Et il dit « Chérie, n'est-ce pas étrange ?» Elle dit « Joseph, mon chéri, j'ai surveillé cela depuis que le soleil s'est couché. Je surveillais cette étoile, d'une manière ou d'une autre. Je me sens très étrange ce soir, comme si quelque chose se préparait à arriver. » Eh bien, c'est comme ça d'habitude, vous savez, vous avez ce sentiment étrange. Et il commença à surveiller l'étoile et Joseph. Et le petit âne prenait son repos en respirant. Et il surveillait l'étoile. Elle avait un drôle de mouvement. Elle n'agissait pas comme le reste des étoiles. Elle semblait agitée, se mouvant. Elle attendait pour quelque chose, surveillant pour quelque chose arriver. Et maintenant, laissons notre petit couple assis ici, sur ce rocher, pour une minute. Entrons dans nos esprits et allons loin, à des centaines de milles, loin dans l'Est. Les mages, loin dans l'Est, aux Indes. Ce soir, comme c'était leur coutume à tous, lorsqu'une étoile, le soleil se coucha, les étoiles sortirent, ils montèrent sur une montagne, ils montèrent dans une tour, comme une tour d'observation. Ils montaient là pour adorer et pour étudier. Et ils connaissaient le temps et gardaient le temps par les étoiles, ils étudiaient les événements et ils montaient là, ils étudiaient la chute des puissances et des nations, et l'écroulement des nations et des royaumes, et ainsi de suite. Et ce qu'ils en pensaient, ils en parlaient, et ils connaissaient ces étoiles, chacune d'elles. Ils les connaissaient comme nous connaissons la Bible. Chaque mouvement qu'elles faisaient signifiait quelque chose. Et vous savez que Dieu déclare toujours ses œuvres dans les cieux avant de le faire sur la terre de toute manière. Les prédicateurs savent cela. Ils étaient là, surveillant les étoiles, car ils savent qu'à tout changement, ils cherchent immédiatement à travers les Écritures pour savoir ce que c'est. Vous dites, les Écritures? Oui, les Écritures. Ils étaient des mages, mais ils étaient des mahométans, ce qui est devenu plus tard des mahométans. Ils étaient vraiment des médo-perses. C'est de là que viennent les mahométans. Nous savons tous cela. Et écoutez, ils avaient un maître là-bas. Et si vous voulez le lire, cela se trouve dans Daniel 2,43. Daniel, le prophète, était leur maître lorsqu'ils étaient en Babylone. C'est exact. Daniel était leur maître prophète. Et il leur avait tout enseigné en ce qui concerne les choses de Dieu, car il était un maître au-dessus d'eux. Et il leur dit qu'il y aurait une pierre taillée de là, qui viendrait de la montagne un jour. Vous vous rappelez qu'il en a parlé, sans l'aide d'aucune main, et qu'elle fracasserait tous les royaumes des gentils du monde, voyez-vous, tous les royaumes, et que même elle grandirait, et qu'elle couvrirait, remplirait la terre. Et maintenant, ces mages ne sont pas des incroyants. Non, monsieur, ce sont des croyants. Ils croyaient dans un vrai Dieu. Nous savons que c'est la vérité, la Bible nous le dit. Et si vous voulez le lire, lisez Actes 10:35, où il dit que Dieu ne fait point exception de nation, mais il honore tous ceux qui le craignent et qui accomplissent la justice. Maintenant, malgré tout, ils n'étaient pas exactement en ligne avec la vérité, mais ils croyaient dans le même Dieu que nous croyons. Les mahométans croient dans le même Dieu que nous croyons. Et je me suis tenu souvent Et j'ai vu ce prêtre, Mahométan, prendre cette grosse chose-là, frapper ce gros bong là-bas et dire, il y a un vrai Dieu vivant. Et Mahomet est son prophète. Mais nous, nous croyons qu'il y a un vrai Dieu vivant. Et Jésus est son fils. Voyez-vous? Alors il dit, loin de ma pensée que Dieu puisse avoir un fils. Il croit que ce devait être un esprit, voyez-vous? Alors il dit, il y a un vrai Dieu vivant. Et Mahomet est son prophète. Il croit encore à ce vrai Dieu vivant. Ce sont les enfants d'Ismaël. Mais maintenant, nous remarquons comme ces Mahométans qui étudiaient, ils s'appelaient des mages, ils surveillaient ces étoiles, ils brûlaient du feu le soir, c'était un genre de feu sacré. Ils servaient leur Dieu par ces feux sacrés, et cela brûlait le soir. Et ils surveillaient, et ils adoraient. Et à chaque soir, ils grimpaient là-haut aussitôt que le soleil se couchait. Et ils étudiaient ces choses. Tout comme nous, nous assemblons dans les réunions et nous étudions la Bible, et parole par parole, et eux, ils connaissaient chaque mouvement de ces étoiles. Et un soir, pendant qu'ils étaient là-haut, en train d'étudier, et pas surprenant que c'était très alarmant, lorsqu'un visiteur apparaissait parmi eux, un étranger, il n'avait jamais vu cette étoile auparavant. Il ne savait pas ce qu'il en était de ceci. Pas surprenant qu'ils étaient alarmés. J'imagine qu'ils l'ont surveillé toute la nuit. Ils ne savaient pas quoi faire à propos de cela. Oh, c'était quelque chose d'étranger. Dans cette grande constellation-là, ils découvrirent une étoile suspendue là. C'était étrange, étranger, un phénomène. Ils n'avaient jamais vu quelque chose comme cela. Alors rapidement, ils commencèrent à scruter les Écritures pour savoir ce qui en était. Naturellement, ils ne pouvaient rien trouver dans leurs propres Écritures. Mais ils revinrent à Daniel et ils découvrirent qu'il viendra une pierre. L'étoile de Jacob se lèvera. Ils savaient que quelque chose se produisait. Ils durent tous avoir prié et ils sont allés se coucher, discutant cela ensemble. Et ils ont dû rêver ce soir-là que le roi des rois était né sur la terre. Car on nous dit, dans un article des journaux récemment, que les mages, que lorsque ces trois étoiles s'alignèrent et ont formé une étoile, que le Messie était sur la terre. Et ils étaient actuellement des juifs là qui étudiaient pour avoir leur éducation en astronomie. Alors quand ils ont vu cela, ils savaient que Jésus était né quelque part. Mais ils ne savaient pas où c'était. Mais ils ont tiré des pailles pour savoir quoi faire, comment, et qui devait y aller. Tout le monde voulait y aller, tout le monde. Mais ils prennent toujours, comme je disais, tantôt, trois, c'est un témoignage pour témoigner, pour revenir, pour leur dire si c'est la vérité. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont changé leur richesse, ils ont chargé leurs dons et tout afin de le lui apporter. Je me demande ce soir, frères, sœurs, si parfois nous n'essayons pas de toujours voir combien nous pouvons recevoir nous-mêmes, alors que nous devrions donner ce que nous avons à Christ. Voyez, par découvrir comment être sage, comment dépister l'autre gaillard, mais comment tout ce que nous avons, nous pouvons le consacrer à lui. Oh, si Dieu me donnait un rêve, n'y croirais même pas. J'ai entendu des gens dire cela. Je ne crois même pas à la guérison divine. Je le montrais à un gars l'autre jour, il dit, je me moque combien de docteurs signeraient leur nom, je ne me soucie pas de combien vous dites et de ce qui arriva et quoi d'autre. Il dit, je ne le crois pas, je ne le crois pas. J'ai dit, certainement pas, ce n'était pas pour vous. La guérison divine n'a pas été envoyée aux incrédules. Cela a été donné aux croyants. Christ est pour les croyants. Le Saint-Esprit est pour ceux qui croient seulement, pas pour les incroyants. Cela ne fut pas donné à leur intention. C'est une pierre d'achoppement pour ceux qui sont aveugles. Ce le sera toujours. Cela sera toujours ainsi. Ce n'est pas fait pour les incroyants. C'est pour ceux qui croient. C'est cela. Maintenant, nous découvrons que ces gens, ils étaient des croyants. Ils voulaient découvrir. Ils ont chargé tout ce qu'ils avaient pour le départ. Ils voulaient découvrir ce que c'était vraiment. Maintenant, ils avaient un long voyage. Alors ils ont tous mis chacun leur part de richesse, tous ensemble. Ils se sont préparés avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe, tout ce qu'ils avaient, afin de se rendre pour découvrir ce roi. Ils commencèrent leur voyage avec leurs dons. Et remarquez, pour découvrir ce roi, ils se fiaient à un signe céleste donné par Dieu, pas à une théologie d'homme. Ils l'avaient vu dans la parole, ils devaient être là. Et ils suivirent le signe céleste. Si les hommes pouvaient seulement avoir l'audace que ceux-ci avaient, s'ils pouvaient seulement avoir la compréhension qu'ils avaient. Quand Dieu nous donne quelque chose, si cela est selon les Écritures, tenez-vous-y. Des hommes disant, il n'y a pas de telle chose que le baptême du Saint-Esprit. Il y a un baptême du Saint-Esprit. C'est exactement de la manière que c'était au jour de la Pentecôte. Ainsi cela arrive aujourd'hui, la guérison divine, la puissance de Dieu. Personne ne peut l'expliquer dans la Bible. Oh, certains disent, ce fut enlevé. Je puis vous montrer où Dieu l'a donné à l'Église. Montrez-moi l'Écriture où il l'a enlevé. Elle n'existe pas. Car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Car la promesse est, et Pierre a dit au jour de la Pentecôte, repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Autant qu'il en appelle, le même Saint-Esprit ce soir est le même qu'il était alors pour les cœurs honnêtes. Si cela ne le fait pas, c'est trop inhabituel pour vous de croire Dieu. Paul dit à Agrippa, « Oh Agrippa, renierais-tu ce que les prophètes ont dit? Renierais-tu ce que Jésus a dit lui-même? Ce que la Bible elle-même dit? Qu'il est le Christ, la parole parlée? Et si la parole demeure en vous, alors vous êtes une personne ointe avec la parole? Vous demeurez en moi et mes paroles en vous, alors demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est Christ en vous, oignant la parole pour cet âge et l'âge dans lequel il vivait. Dieu a divisé sa parole pour des âges. Et chaque fois que nous arrivons à ce temps-là, les églises sont toutes pleines de scrupules et Dieu oint quelqu'un, Dieu l'envoie. Il fait en sorte que sa parole agisse exactement de la manière dont il l'a dit. Exactement. Et il y a une parole prophétisée pour ce jour. Dieu attend afin de trouver quelqu'un à qui ce n'est pas trop inhabituel et qu'il soit loin du Saint-Esprit afin de prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. D'être une lumière qui brille pour aveugler les yeux des incroyants. Et ils le blasphémeraient, ils apporteraient la justice sur eux-mêmes. Car la loi de Dieu est juste et le jugement peut venir seulement par sa justice. Et alors il peut condamner le monde et l'envoyer dans une flamme de feu, comme il l'a fait pour les sodomites. Maintenant, remarquez, maintenant nous découvrons, pendant le voyage, ils suivaient le signe donné par Dieu, ils surveillaient, ils n'ont jamais pris la parole de quelqu'un. Ils ne sont pas descendus pour consulter l'évêque ou rien d'autre. Dieu leur avait donné un signe. Ils l'ont vu là, c'était la vérité, et ils ont suivi cela. Cela a conduit leur chemin. C'est celui dont l'Écriture avait prédit. Ils savaient que ceci allait venir. Ils l'ont suivi. Et qu'est-ce que c'était? Je puis les voir se quitter et se donner la main pour se dire au revoir. Nous serons de retour un jour, frère, pour vous apporter le message, car nous savons que c'est vrai. Et ils l'ont suivi au travers des montagnes, au travers de la rivière du Tigre, au travers des plaines, pendant des journées entières, des mois entiers, aussi durement qu'ils pouvaient y aller, surveillant cette étoile. Et dans la journée, probablement, qu'ils s'étendaient, qu'ils se reposaient, qu'ils dormaient, ils se tournaient de côté, se parlaient l'un l'autre. Oh, ce sera merveilleux lorsqu'on y arrivera. Ce rayon céleste, cette lumière que nous voyons, ce surnaturel. Amen. Vous pensez que je suis hors de moi-même? Je ne le suis pas. Mais remarquez ce rayon céleste, cette lumière que nous surveillons. Maintenant, rappelez-vous, personne d'autre ne l'a vu. Cela a passé au-dessus de tous les observatoires de la région, d'observatoire en observatoire, par les mages et après les mages, mais ce ne fut envoyé que pour eux. Je crois qu'ils l'ont vu, parce que la Bible dit qu'ils l'ont vu, mais personne d'autre ne l'a vu. Personne n'a vu la lumière que Paul a vue. C'est la même chose. Cela l'a jeté par terre, sur la route vers Damas, mais cela a pu donner à Paul. Personne n'a vu le Saint-Esprit descendant comme une lumière du ciel, une colombe. Seulement Jean, il l'a vu et il en a rendu témoignage. Il l'a vu, les autres ne l'ont pas vu. Il l'a vu car il le cherchait, les mages le cherchaient. Et lorsque vous le cherchez, lorsque vous êtes prêt à recevoir le vrai cadeau de Noël, le vrai présent de Noël, le cadeau Christ de Dieu, le Saint-Esprit. Vous le cherchez, vous le verrez. C'est une lumière céleste envoyée de Dieu, sortie du ciel pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Maintenant, ils n'ont pas pris la parole de quelqu'un d'autre. Dans le voyage, il y avait beaucoup de difficultés. Ils ont dit, « Oh, je ne peux plus attendre. Je ne sais pas combien plus loin nous irons. Nous irons probablement jusqu'à Jérusalem ou jusqu'à la terre promise, en Palestine. Car c'est là où la prophétie a dit que celui-ci devait naître. Alors, nous le trouverons tôt ou tard. » Et le soir arriva. Les ténèbres commencèrent à s'établir. Rappelez-vous que la lumière brille seulement dans les ténèbres. C'est de la seule manière qu'elle puisse être reconnue. Si on n'a déjà pas vécu dans un temps de noirceur, là où l'homme et les credos éloignent les gens de la parole de Dieu, c'est aujourd'hui. Alors que ces dénominations les ont liés dans toutes sortes de choses, sauf la parole de Dieu. Tellement qu'ils sont assez aveugles pour marcher dans un conseil mondial des églises et des choses comme cela, se joignant ensemble avec toutes sortes d'incroyants, alors que la Bible dit « Comment deux peuvent-ils marcher ensemble à moins d'être d'accord ?» Et nos églises qui s'allient dans une telle agrégation que cela, certainement qu'ils sont aveugles. Mais c'est à cette heure sombre que la lumière s'avance. C'est alors que la lumière brille. Et ils la surveillaient. Et lorsque la nuit arriva, ils se réjouissent et ils disent « Continue seulement de nous conduire, de nous guider vers l'ouest. » Procédant toujours, guide-nous à cette lumière parfaite. Et ils descendirent à travers les rivières, haut en bas, au travers des bancs de sable et partout. Ils continuaient, ils voulaient seulement découvrir la réelle vérité. Et regardez, Bethléem était exactement en ligne avec la Judée d'où il... Jérusalem était en ligne avec Bethléem d'où il se tenait. Remarquez, oh quel symbole si vous pouvez le saisir. Voici Bethléem et Jérusalem est en haut ici. Et d'où venait l'image? Il venait d'aller à Jérusalem d'abord, avant d'aller à Bethléem. Saisissez-vous ce grand quartier général dénominationnel, soi-disant, oui monsieur, Jérusalem, où toutes les dénominations se réunissaient ensemble, le grand concile se rencontrait là-bas, vous savez? Alors lorsque ces hommes sont venus, ils sont allés à cette ville, et ils pensaient, la voici! Et si quelqu'un savait à propos de celle-ci et pouvait leur expliquer cette grande lumière mystérieuse pour nous, alors voilà tous les grands prêtres, voilà tous les docteurs en théologie, voilà tous les docteurs en philosophie et tous ceux qui ont des diplômes, tous ceux-ci là-haut, ils connaissent tout à propos de cela. Oh frère, Jérusalem est en vue, allons-y, nous allons la voir. Et alors, ils s'avançaient là dans les rues, où allez-vous? Nous avons un grand message. Qu'est-ce? Où est celui qui doit naître, le roi des Juifs? Quelle est cette lumière mystérieuse là-haut? Oui, où est-il? De haut en bas, dans les rues, ces hommes riches, ces chameaux finement revêtus, l'or, l'encens, ils montaient toutes les rues, descendaient toutes les ruelles, criant, où est-il? Où est-il? Où est-il? Mais ils découvraient qu'ils n'avaient pas la réponse. Cette grande ville aujourd'hui, le communisme est sur nous. Oh, à chaque bulletin de radio, ils parlent toujours contre le communisme. Vous pouvez discerner le communisme, mais les signes du temps, vous ne pouvez pas les discerner. Jésus a dit, vous pouvez discerner la face des cieux, mais le signe du temps, vous ne pouvez pas le discerner. Parlons toujours du communisme. Le communisme, vous avez meilleur temps de vous renseigner qu'il y a autre chose qui va avec cela. Dans quel temps vivons-nous? Quel est le signe que Dieu a dit qu'il montrerait dans ces derniers jours, avant que cela ne s'accomplisse? Quelles sont les choses qu'il a dites? Israël sera son lieu là-bas, le figuier se restaurant à nouveau. Regardez comme tout est en ligne. Et l'Église, dans la condition de Laodicée, avec Jésus à l'extérieur, un fugitif pour sa propre Église. Tout comme David, qui était au-dessus de Bethléem, un fugitif pour son propre peuple. Un fugitif. Et la Bible dit que Christ, dans les derniers jours, était un fugitif à son propre peuple. Là, dans l'Apocalypse, chapitre 3, dans l'âge de Laodicée dans lequel nous vivons, Christ est à l'extérieur, essayant d'y entrer, un fugitif pour son propre peuple. C'est alors que ces guerriers ont pris leurs épées, et David s'est écrié pour avoir une bonne boisson d'eau fraîche, et ils ont frayé leur chemin au travers de 15 000 hommes pour lui procurer de la bonne eau. Et David l'a versé sur la terre comme un sacrifice, une offrande de boisson. Oui, guerrier d'aujourd'hui, Jésus veut un bon breuvage d'eau fraîche de la vieille Pentecôte. Et ces eaux stagnantes des dénominations le rendent malade. Prenez la parole de Dieu et tirez-la et passez au travers de tous ces credos et de toutes ces choses jusqu'à ce que vous atteigniez cet endroit où il y aura un breuvage prêt pour lui, une vraie et sincère adoration, un cœur de pure race où il peut se déverser et faire vivre sa parole en ce jour. Il l'aura. Il a dit qu'il restaurerait la foi des gens à leur père, la foi des enfants. Malachie 4 nous dit que cela viendra, et il sera là. Ne vous inquiétez pas, ce sera exactement là, Dieu l'a dit, alors c'est tout. L'horloge fait toujours son tic-tac, oui monsieur, mais aujourd'hui nous voyons tous ces grands, aujourd'hui ce que nous voyons. Pourquoi le communiste vient-il? Pourquoi le monde est-il englouti? Pourquoi le 1% de la Russie peut-il? C'est tout ce qui est communiste. 99% est encore chrétien. 1% de la Russie contrôle le reste du monde, presque. Le monde oriental, le communisme. Pourquoi? Pourquoi peut-il faire cela? La Bible dit qu'il le ferait. Il a la réponse. Mais vous voyez, maintenant, nous essayons de combattre ceci et cela, et la chose même que Dieu nous a envoyée afin que nous la surveillions, nous ne la voyons même pas. Ils essayaient de savoir quelle sorte de bouton ils devraient porter sur leurs vêtements et la prochaine conférence qui sera leur prédicateur principal et ainsi de suite, quelque chose de cet ordre-là. Et voici les rois mages surveillant la lumière céleste et en descendant ils disaient, quand j'arriverai à Jérusalem, ils me diront ce qu'est cette lumière céleste et mystique qui nous guide. Et ils montaient, descendaient la rue disant, où est-il? Où est-il né le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile dans l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons de l'or, de l'encens, nous avons tout pour lui. Où est-il? Où est-il? Ils ont dit, où est qui? Quoi? C'est comme cela aujourd'hui. Oh, il n'y a pas de telle chose qui arrive aujourd'hui, ont-ils dit. Oh, lorsque le soleil descend, mais nous voyons une lumière mystique. Mais moi, je ne l'ai jamais vue. Appelez l'homme là-bas sur le phare. Avez-vous vu une sorte de lumière mystique? Que dites-vous? Avez-vous vu une lumière mystique? Non, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Voyez, ils n'avaient pas la réponse. Ils ne l'ont pas aujourd'hui. Ils ne savent pas ce que sont ces choses, alors qu'ils devraient savoir. Alors que les grandes têtes des églises devraient être au courant de ces choses. Mais Dieu œuvre toujours dans la minorité, et si humblement que cela leur passe par-dessus la tête, ils ne le savent même pas. Mais c'est comme cela qu'il accomplit sa parole. C'est cela. Nous nous emmêlons tous dans ces grandes choses et nous ne pouvons même plus bouger. Dieu nous a libérés de ces choses afin que nous puissions voir l'heure dans laquelle nous vivons. Et si Dieu doit œuvrer au travers d'un rêve à nouveau, il peut vous le révéler. Certainement qu'il le peut. Nous vivons dans les derniers jours. Maintenant écoutez. Oh, ils n'avaient pas la réponse pour cette lumière mystérieuse. Ils ne l'avaient pas là-bas dans les quartiers généraux et ils ne l'ont pas aujourd'hui non plus. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont appelé la parole de Dieu. C'est cela l'idée. Ils ont dit, regardons dans la parole de Dieu et découvrons où sont ces choses. Et lorsqu'ils ont fait appel à la parole de Dieu, les mages étaient plus sages que beaucoup de gens aujourd'hui. Les mages ont vu, selon la parole de Dieu, qu'ils ne l'avaient pas et qu'ils ne pourraient pas l'avoir. Amen. Ils ont découvert que ce n'était même pas la bonne ville, que ce n'était même pas le bon endroit. Ils devaient naître à Bethléem de Judée. Amen. De la moindre, la plus humble parmi toutes les villes, la toute petite place, non pas la toute grande ou soi-disant. Les rois mages ont vu rapidement, la parole de Dieu l'a révélé, qu'ils ne l'avaient pas, qu'ils n'étaient pas pour l'avoir, alors ils sont sortis de ce gâchis. Oh, si nous pouvions seulement faire la même chose. Avertis dans un rêve, ils sont sortis de ce gâchis. Alors ils ont laissé cela, alléluia, pour eux-mêmes. Ils ont laissé cela. Et après qu'ils soient sortis de ce gâchis, alors le surnaturel est apparu de nouveau. Nous y voilà. Après qu'ils se soient séparés de ces choses, après qu'ils soient sortis de toute cette agglomérat là-bas, faisant des embarras, des arguments et tout, ils étaient entrés où se trouvaient tous les grands quartiers généraux, où tous se promenaient avec leurs diplômes en philosophie et leurs grands chapeaux turbans tout là-bas. Ils n'auraient pas pu voir l'étoile, tout cela. Marchant avec leur chapeau, oh, de telles choses aveuglent beaucoup de gens, de grands noms, de grandes personnes qui se promènent. Et beaucoup d'entre eux disaient, eh bien, il n'y a pas de telles choses. en 400 ans, n'avons pas entendu parler d'une telle chose. Mais qu'ont-ils ces gens ridicules? Renvoyez-les en Inde d'où ils viennent. Eh bien quoi? La parole de Dieu, qu'en faites-vous? Il a dit, « Et toi, Bethléem de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre tous les princes de Juda, mais de toi sortira. » Oh, nous sommes dans le mauvais endroit, dirent-ils. Nous ne nous unirons pas avec aucune de ces choses. Alors, ils ont fait faire demi-tour à leurs chameaux, et ils se sont éloignés de cela. Que Dieu les bénisse. Ils sont sortis de là, et aussitôt qu'ils s'en étaient éloignés, alors la lumière apparut à nouveau. Le surnaturel a commencé à se mouvoir parmi eux à nouveau. Oh, ils ont commencé à suivre le surnaturel alors. Le mage est sorti de leur système. Alors après qu'ils soient sortis de cela, la lumière surnaturelle du ciel leur est apparue à nouveau. Aussi longtemps que vous serez liés à un groupe d'incroyants qui ne croient pas ces choses, vous ne serez jamais capables. Vous serez aussi aveugles qu'une chauve-souris. Dégagez-vous de tout, si c'est mère, père, sœur, frère, dénomination, quoi que ce soit. Celui qui ne voudra pas abandonner les siens pour me suivre n'est même pas digne d'être appelé mien. Que celui qui place sa main à la charrue et commence, et qui se retourne pour regarder en arrière, il n'est pas digne de labourer. Frères, sœurs, laissez-moi vous dire, il y a une vraie, authentique lumière qui brille ce soir. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dégagez-vous de tout, et il est la parole, il est toujours la parole. La parole de Dieu est parfaitement correcte. Ce n'est en aucun cas une interprétation particulière. Vous dites, cela veut dire ceci. Cela signifie exactement ce que cela dit. La Bible dit qu'elle ne supporte aucune interprétation particulière. Si cela dit noir, c'est noir. Et blanc, c'est blanc. C'est exactement ce que c'est. C'est l'ultime, l'absolu. Et chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu est lié à cela. Peu importe, rien ne le séparera de cela. Il est lié à cette parole. Parce que c'est Christ. Christ est la parole. Et Christ ne peut pas mentir à propos de sa parole, car il est la parole. Vous dites, eh bien, je sais qu'il a dit cela, mais il n'y a pas de mais, rien à propos de cela. Il a tout simplement dit que c'était de cette manière. Et c'est ce que c'est, et il ne peut pas changer cela. Il ne peut pas, il ne change pas. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ce sera là en sa saison. Il y aura quelqu'un là qui la fera briller. C'est vrai. Et Dieu prononce cette parole. Ce Fils serait là, et il fut là pour la faire briller. Ce visiteur céleste était là, et il le surveillait, et ils vinrent directement à lui. Alors ils quittèrent leur vieux credo, ils commencèrent avec le surnaturel à nouveau, ils s'en allèrent. Oh, comme ils se réjouissaient! La Bible dit qu'ils se réjouissaient avec une très grande joie quand ils virent cette lumière venir. Oh, frères, sœurs, comme ce serait bon si chacun d'entre vous, si chacun de nous, si chacune de nous pouvait mettre de côté tout ce brillant et ce clinquant de Noël, voyez-vous? Arrêtez tout cet emballage de cadeaux l'un avec l'autre et toutes ces sottises du monde et seulement se dépouiller de notre orgueil et le déposer et écraser la chose sous vos pieds et dire, Seigneur Jésus, guide-moi à cette lumière parfaite. Surveillez pour que quelque chose de surnaturel arrive. Le Saint-Esprit viendra d'une manière phénoménale. Le voyez-vous? Et ils allèrent, suivant le surnaturel, et qu'ont-ils laissé? Ils suivirent le signe céleste de ce jour. Maintenant, rappelez-vous, le signe céleste donné par Dieu. Croyez-vous tous que c'est vrai? C'était un signe céleste donné par Dieu. Ils ont suivi ce signe jusqu'à ce qu'ils trouvent la parole faite chair. Croyez-vous qu'il était la parole faite chair? Le signe céleste promis de ce jour les a conduits à la parole faite chair. Frères, sœurs, il fera la même chose ce soir. Ce grand signe du ciel que nous avons, le Saint-Esprit, vivant parmi nous, suivez-le. Quelque chose se meut dans votre cœur. Je sais que je dois recevoir cela. Je sais que je dois faire plus que de me joindre à une église. Oh, j'ai un bon commerce. Je sais qu'il fleurit. Frère, savez-vous qu'un de ces jours, une crise cardiaque peut vous prendre à 4 heures du matin et vous devrez laisser votre commerce. Alors, où irez-vous après cela?
espace sur la bande, note de l'éditeur.
Confirmé dans votre propre chair, vous êtes la personne qui est née du Saint-Esprit. N'aimeriez-vous pas avoir cela? Ne serait-ce pas le plus merveilleux cadeau de Noël que n'importe qui pourrait recevoir? Le don de la vie éternelle? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Nous avons vu son étoile dans l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. La civilisation a voyagé avec le soleil de l'Est vers l'Ouest. Nous sommes sur la côte Ouest maintenant. L'Est et l'Ouest se sont rencontrés. Nous ne pouvons pas aller plus loin. La plus vieille civilisation est la Chine, tout à fait à l'autre bout du monde. Rappelez-vous, c'est parti et le péché a voyagé avec la civilisation. Et nous sommes, je sais que c'est dur de dire cela, mais frères, sœurs, même les pensées et les intentions du cœur de l'homme, un homme moins de l'esprit peut s'y tenir. Vous l'avez surveillé, vous avez vu cela pour les autres. Tenez-vous debout et surveillez une personne, laissez-les seulement dire une parole ou deux. Vous pouvez voir aussitôt ces insectes s'envoler, voyez-vous? Ils attrapent cette onction avec eux. Chaque pensée de l'homme est continuellement mauvaise. Cela est exactement comme au jour de Noé, jusqu'à ce que cela ait attristé Dieu d'avoir créé l'homme. Et il a dit, je détruirai l'homme de la face de la terre. Nous sommes revenus à ce temps une fois encore. Remarquez, mais il a une petite église qu'il veut prendre. Il y en a tant des milliers qui se sont couchés et qui dorment dans la terre. Première veille, deuxième veille, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et ceci est la septième veille. Rappelez-vous que c'est alors qu'il est venu, dans la septième veille. Et dans cette veille, il a trouvé des vierges sages et des vierges qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas trouvé cela dans votre lampe, ce soir, mon frère, ma sœur, pourquoi ne le prenez-vous pas, le plus grand présent de Noël de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, nous recevons un très grand cadeau. Nous l'emballons. Nous prenons pour $3 de papier pour l'emballer. Et nous y plaçons toutes sortes de choses clinquantes. Et souvent, vous pensez que c'est un gros cadeau. Une femme se tenait dans le magasin l'autre jour. Elles étaient deux, parlant l'une à l'autre. L'une a dit qu'elle était venue pour acheter à son papa. Elle a dit, quoi? Parlant à sa sœur, elle a dit, qu'est-ce que tu vas acheter à papa? Elle a dit, je vais lui acheter un paquet de cartes et un carton de cigarettes. Et elle a dit, et moi je lui ai acheté une bouteille de whisky. Elle a dit, je vais l'emballer. Voyez-vous? Tout le brillant à l'extérieur ne déclare pas ce qui est à l'intérieur, voyez-vous? Mais Dieu a un cadeau de Noël pour vous ce soir. Il l'a emballé dans une crèche. L'extérieur n'était pas grand-chose, mais oh! L'intérieur, c'est la vie éternelle. Laissez donc ce phénomène du Saint-Esprit frapper votre vie ce soir et vous conduire à la lumière éternelle. Inclinons nos têtes un moment. Dans le calme de ce moment, ce petit message tout entrecoupé, si je peux l'appeler un message de Noël ou quelque chose de semblable, si vous croyez vraiment que c'est la vérité, si vous n'avez pas encore trouvé cette lumière éternelle, vous n'avez jamais laissé le Saint-Esprit vous conduire à cette lumière. Voudriez-vous parler maintenant dans votre cœur et dire, « Seigneur Jésus, je veux trouver cette lumière. Je me moque de ce que les autres diront. Il s'agit de moi. Je veux trouver cette lumière. » Voudriez-vous lever vos mains maintenant, pendant que vous avez vos têtes inclinées? Levez vos mains et dites, « Priez pour moi, frère Branham. Je veux vraiment trouver cette lumière. » Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Est-ce que quelqu'un d'autre dira, je veux le cadeau de Noël de Dieu? Envoie-le-moi, Seigneur. Je ne me soucie pas de ce que ce sera. Si cela vient dans une crèche, si cela vient dans une étape, peu importe comme cela a l'air disgracieux pour le monde. Comment, moi-même, j'aurais l'air disgracieux pour le monde? Vous savez que les grands dons de Dieu font toujours en sorte que les hommes agissent étrangement. Regardez Moïse, un grand théologien, un grand intellectuel. Mais un jour, il rencontra une lumière dans le fond du désert. Il enleva ses chaussures, un homme de 90 ans, et la barbe qui pendait jusqu'à la taille. Il a mis sa femme et son bébé sur un âne, et il est descendu là-bas en Égypte. Il y avait toute une armée pour s'occuper de lui. Un jour, il échoua. Maintenant, il retourne avec seulement un bâton courbé, descendant en Égypte pour s'emparer de la nation. Pourquoi? il avait trouvé cette lumière, ce surnaturel. Et cette petite chose qui travaille dans votre cœur ce soir, c'est le surnaturel. C'est la lumière de ce jour. Pourquoi ne pas la laisser vous guider à Jésus-Christ, qui seul peut vous donner la vie? Y en a-t-il qui n'ait pas levé sa main et qui voudrait dire, souvenez-vous de moi, frère Branham, dans votre prière maintenant, que Dieu vous bénisse. Un autre, que Dieu vous bénisse. Encore un autre, quelqu'un, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Encore un autre, que Dieu vous bénisse, jeune garçon. Un autre le fera-t-il? Dites, je veux suivre Christ, l'étoile du matin. Je veux suivre et trouver mon Jésus ce jour. Je veux m'éloigner de tout ceci, de tout ce clinquant de Noël et de toutes ces choses, car un jour, cela sera brûlé avec un feu qui ne s'éteint point. Et tous ceux qui tolèrent cela brûleront avec lui. Le monde, le pécheur sera puni. Ils périront avec le monde. Les gens qui aiment le monde périront avec le monde. Et si vous avez encore l'amour du monde en vous, et vous ne voulez pas vous vendre complètement à Jésus-Christ et à sa parole ce soir, alors levez votre main. Encore maintenant, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas levé la main? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis seulement cela. Que Dieu vous bénisse, madame. Vous ne savez pas. Quelqu'un en une minute peut lever leur main. Et disons, quelle différence ça peut-il faire, frère Branham? La différence entre la mort et la vie. Si cette main est levée comme cela, et que vous êtes vraiment certain, il y a quelque chose près de vous. Qu'est-ce? C'est cette lumière dont je vous parle. C'est cette lumière qui vous a dit, j'ai eu tort, il y a le monde en moi, je ne le veux plus, je lèverai mes mains. C'est un témoignage. Vous rappelez-vous ce que c'est qu'une main levée? Dans chaque langage sous le ciel, une main levée est un abandon, un signe d'abandon. Alors lèverez-vous vos mains? Dans n'importe quelle armée où que vous soyez, ils lèvent leurs mains. Et c'est un signe international d'abandon. Et combien ce soir, directement, dans cette citation maintenant, lèveront leurs mains et diront, « J'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne. J'ai fini. J'abandonne. » Que Dieu vous bénisse. C'est bien. C'est parfait. Oh, je me demande si le pianiste viendrait au piano pendant que nous prions. Père céleste, je réalise qu'il est dit, tous ceux qui ont cru furent baptisés. C'est tout ce qui est nécessaire, Seigneur. S'ils te croient, quelque chose doit arriver. Ils sont à toi. Ils sont des trophées de ce petit service de la parole de Dieu. La présence de Jésus-Christ ici, dans ce bon groupe de gens ce soir, qui sont réunis ici à ce petit banquet. Mais ce soir, nous savons que tu es ici. Par contre, nous ne le voyons peut-être pas avec nos yeux, mais nous l'avons ressenti avec notre sens des sentiments, le sens du sentiment dans notre cœur et notre conscience. Notre âme nous a parlé et nous a dit que nous sommes en la présence de Jésus-Christ, le plus grand cadeau de Noël, le premier, le vrai cadeau de Noël de Dieu à l'homme. Et par contre, de tous les cadeaux que nous avons reçus, plusieurs d'entre nous n'avons pas encore reçu ce grand cadeau. Nous prions pour eux ce soir, Seigneur, alors qu'ils ont levé leurs mains. Ils veulent cela abondamment. Ils se sont inclinés de ce côté, Père. Plusieurs des rabbins l'ont fait aussi. Plusieurs des grands docteurs de ce jour se sont inclinés de ce côté. Mais ils ont eu peur de sortir et de faire cet abandon complet et de le croire et d'accepter le message et la lumière de l'âge, la parole confirmée. Il y en a eu plusieurs qui l'ont fait. Seigneur, il y en a eu plusieurs ici ce soir, 20 ou 30, dans ce petit groupe de gens. Et si j'ai sous-estimé ou exagéré, pardonne-moi. Mais Seigneur Dieu, peut-être que plusieurs, plus ou moins, ont levé leurs mains. Ils sont prêts à abandonner. Ô Dieu, donne-leur Jésus. Donne-leur le Saint-Esprit dans leur vie. Que ceci soit la plus grande heure de leur vie. Qu'ils aillent chez eux ce soir comme Joseph, songeant à ces choses dans leur cœur. Pourquoi ai-je levé ma main? Qu'est-ce qui m'a fait faire cela? Comment ai-je pu parvenir à faire cela? Par contre, j'ai prétendu être chrétien pendant bien des années, mais quelque chose m'a dit de lever ma main. Des membres d'église, même des prédicateurs ont levé leurs mains, Seigneur. Je prie que tu leur accordes cette bénédiction. Accorde-leur, et que l'ange du Seigneur vienne et dise, ne crains pas. Ceci est la lumière de ce jour. Ceci est la lumière de l'heure. Les lumières du soir brillent. Le prophète a dit qu'il y aurait de la lumière au temps du soir, juste avant que le soleil ne se couche. Et Seigneur, nous voyons le coucher du soleil, et bientôt cela se déversera dans l'éternité. Accorde, Seigneur, que chacun d'eux trouve Jésus ce soir, car je le demande en son nom. Amen. Levons nos mains en signe d'abandon comme ceci, et levons-nous sur nos pieds. Je vais vous demander quelque chose. Vous qui avez levé vos mains il y a un instant, j'ai prié pour vous. C'est tout ce que je sais faire, c'est de prier. Je vais croire pour vous. Je crois que ce que j'ai demandé, il me le donne, parce qu'il a promis qu'il le ferait. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. La seule chose qui puisse l'empêcher serait mon incrédulité. Je crois pour vous que vous êtes vraiment sincères, et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Il vous le donnera car vous l'avez demandé et vous voulez faire un abandon. Et si vous avez fait cela, je vais vous dire ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous trouviez une bonne église qui croit au baptême du Saint-Esprit et allez là. Et si vous êtes dans une telle église, allez vers votre pasteur et dites-lui, j'ai levé mes mains l'autre soir, dans une petite réunion. Vous n'avez même pas besoin de lui dire où c'était. Dites, j'ai levé mes mains, je veux que vous priez avec moi, pasteur, parce que je cherche le baptême du Saint-Esprit. Je le veux, je dois l'avoir, pour vivre, je dois l'avoir, j'ai vu la lumière. Oh, que Dieu vous l'accorde. Le ferez-vous maintenant? Et maintenant, comme tout le monde est ici, et nous allons chanter, prends tout, Seigneur, j'abandonne tout, tout à Christ mon Sauveur, j'abandonne tout. Levons nos mains maintenant et fermons nos yeux en chantant. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Le pensez-vous vraiment? Alors dites Amen. Maintenant, je veux faire quelque chose gentiment. Quelqu'un se tient près de vous, alors prenez leur main et dites, frère, je le pense vraiment, priez pour moi. Faisons tous cela ensemble. Faisons-le maintenant. Frère Branham parle à ceux-ci qui sont sur la plateforme. Frère, je le pense vraiment, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. C'est parfait. Oh, cela ne vous fait-il pas vous sentir bien? Je le pensais vraiment. Maintenant, si nous le pensons vraiment de tout notre cœur, nous abandonnons tout, notre propre volonté, nos propres voies, tout ce que nous avons, nous l'abandonnons à Christ. Levons nos mains encore et chantons. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Inclinons nos têtes maintenant et chantons. Frère Branham commence à fredonner, j'abandonne tout, nom de l'éditeur. Maintenant que vos pensées soient sur lui, je vous souhaite le plus joyeux Noël qui soit. Que Dieu envoie son étoile de l'Est, qui s'est levée à l'Est il y a 1900 ans, et qu'il vous conduise à la parole faite chair. Frère Branham continue de fredonner, j'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Les bras vers Dieu, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Que Dieu vous bénisse, Tony.